Merci. Alors, un atelier très riche avec un éventail très large d'expériences citoyennes, de création de micro-centralités, d'espaces collectifs, un débat aussi sur les enjeux des pratiques spatiales, relatives aux pratiques spatiales et aux enjeux théoriques d'analyse des espaces publics. Donc, nous avons de quoi réfléchir pendant quelques moments. Mais je vais, comme nous avons très peu de temps, immédiatement et sans autre commentaire, si ce n'est qu'un grand merci à tous les intervenants, passer la parole. D'abord à nos rapporteurs pour une petite question pouvant ouvrir le débat de 10 minutes avant d'aller au repas. Une question.
Après cet exposé impressionnant sur les différents usages de l'espace public et la démonstration que... Merci. Et la démonstration que on peut motiver les habitants à participer quand ils se sentent véritablement concernés ou alors quand certains d'entre eux prennent des initiatives. Mais en somme, en dehors de ces deux circonstances d'exception et remarquables, comment donc peut-on faire pour que le public prenne conscience de l'espace public en tant que tel? Comment peut-on responsabiliser les gens sur le fait que l'espace public est un patrimoine commun et que on doit tous s'en occuper? On doit tous prendre en charge notre espace public?
Alors, ce père de pain, je donne quand même tout de suite la parole à la salle, de manière à qu'on puisse regrouper les questions et chacun pourra répondre. Alors, très brièvement, sans très grande introduction, d'accord ?
Merci de faire très court. Une question qui est dans ce couple que vous évoquez entre espace conçu et espace vécu, et la question de la définition de l'espace public, il y a une question qui n'est pas abordée, c'est la question de la gestion de l'espace public, qui se pose en France de manière très aiguë dans la relation avec l'habitant et dans la concertation, par rapport à la perception du quartier, par rapport à la crédibilité des projets d'intervention et de renouvellement urbain, qui ne se pose en revanche absolument pas dans la commande de la maîtrise d'ouvrage, dans la création des écoquartiers, pour la création des écoquartiers et la création des projets d'aménagement. Cette question-là n'est absolument pas discutée en amont, alors que le concept même d'écoquartier modifie substantiellement les modes de gestion pour les collectivités, tant en moyens qu'en savoir-faire.
Merci. D'autres questions ? Oui, au fond de...
J'avais une question pour les associations de quartier. Est-ce que, notamment sur la question de la participation, donc vous avez bien fait remarquer que l'opportunité de la démocratie participative, c'est déjà une avancée, mais est-ce que c'est pas une participation, le débat oral, c'est pas quelque chose qui est ouvert à tous et à toutes? Est-ce que vous avez d'autres idées de mise en valeur, de participation au sein des quartiers qui passent pas forcément, qui ouvrent d'autres possibilités? Enfin...
Alors, une dernière question, et après je donne la parole à Laurent.
Merci. Peut-être au risque de brûler la politesse à quelqu'un, je voulais juste réagir à la première question de madame pour me demander si, en fait, quand on parle de la responsabilité, de l'appel à la responsabilité des gens pour qu'ils s'occupent de leur espace, c'est pas comme si on présupposait qu'ils étaient irresponsables. Moi, je crois pas qu'ils sont responsables. Moi, je crois qu'ils sont responsables. Ce qu'ils ont pas, c'est le pouvoir. Je crois que si vous donnez du pouvoir un peu aux gens, ils viennent, ils sont responsables. Je crois que c'est une des clés de la participation. Quand on parle de participation, on parle de quel pouvoir est-ce qu'on a. Sans pour le dire qu'on doit transférer tout le pouvoir et qu'on soit un nouveau système de pouvoir, c'est pas ça. Mais quand on sait pas de quoi on parle, pourquoi on parle, à quoi ça va servir, c'est sûr que les gens n'ont pas intérêt à prendre du temps et puis à participer à des choses où ils vont perdre leur temps. Si vous leur dites, là vous pouvez peut-être décider ou jusque-là ou de cette manière sur ça, moi je crois que c'est la meilleure manière pour qu'ils expriment leur responsabilité de manière constructive. Merci.
Alors, nous avions trois questions, la responsabilisation, la gestion des espaces publics dans une démarche éco-quartier, la question de la participation. À qui la parole? Qui veut réagir là-dessus? Participation. Ah, qui? Oui.
Je mélange un tout petit peu les trois questions là, mais C'est vrai que si je reviens sur la dernière intervention, si on laisse les gens prendre part à la décision, oui, c'est bien. Mais moi, je pense que le problème que pose Madame, c'est quel fonctionnement social on a pour gérer les espaces publics, pour gérer les espaces verts. Comment est-ce qu'on peut organiser la participation des habitants dans le concret, dans l'extérieur? Et ça, c'est vrai que c'est une question que, pour nous, c'est une question de débat en ce moment dans un des dossiers, parce que juste les projets que je vous ai présentés là, couverture d'ivoire, c'était bon, on va faire une place de jeu, alors on choisissait les jeux, et puis c'est les services publics qui installaient. Puis après, les habitants, ils râlent, ouais, mais attendez, c'est pas entretenu. Alors, je veux dire, voilà, il n'y a pas vraiment de participation dans la gestion de l'espace public, c'est plutôt dans le choix. Actuellement dans le dossier donc Écoquartier La Concorde qui est donc un des dossiers du forum actuel, la question se pose vraiment, quel fonctionnement social pour la gestion des espaces publics? Est-ce que vous êtes d'accord que ces espaces publics, on puisse les cultiver par exemple? Est-ce que vous êtes d'accord de les offrir aux locataires pour qu'ils puissent faire leur potager urbain? Donc voilà, actuellement c'est le cas dans ce quartier, mais est-ce que dans le nouveau quartier, est-ce que ça va toujours être possible? Alors les gens ils disent que ça n'a pas nécessairement besoin d'être joli, l'espace public, mais pourvu que ce soit, que ça nous convienne, que ce soit vert, qu'on puisse y faire quelque chose. Donc voilà, la question est ouverte avec les pouvoirs publics, jusqu'où est-ce qu'ils sont d'accord de laisser la gestion de ces espaces publics aux habitants? Donc voilà, c'est des modalités à trouver.
Oui, peut-être juste pour dire qu'en fait, il faut penser la participation de façon modulaire. J'ai l'impression que la participation, elle est pas la même, quel que soit l'espace dont on parle. Et peut-être qu'effectivement, en fonction des objets sur lesquels on travaille, c'est tel groupe ou tel autre groupe qui va pouvoir qui sera plus concerné. C'est ce que vous aviez dit. En fait, il s'agit que les habitants se sentent concernés. Quand les gens se sentent concernés par l'évolution d'un espace qui se trouve devant chez eux, en pied d'immeuble par exemple, à ce moment-là, ils vont se mobiliser. C'est vrai que c'est plus difficile de participer sur un enjeu complètement vague, qu'on n'arrive pas à concevoir, tel qu'un futur écoquartier dont c'est pas forcément les habitants, c'est pas forcément les futurs habitants qui sont consultés sur cette question. Donc, plus difficile de concevoir quelles sont les formes à donner à ça. Par contre, je pense qu'au niveau local, pour les espaces collectifs du quartier, effectivement, quand il existe, ça concerne le quartier dans son ensemble. Pour les pieds d'immeuble, ça concerne les habitants de l'immeuble. Qu'est-ce qu'ils vont faire de ces pieds d'immeuble? Donc, il faut laisser la modularité nécessaire à ces espaces au moment de la conception, pour que ensuite les gens qui sont véritablement concernés par l'évolution de ces espaces puissent se prononcer, puissent amener des propositions. Et je pense que c'est vraiment la modularité qui doit être de mise, et également l'adaptation dans le temps long, la possibilité de changer les fonctions en fonction des besoins qui évoluent, qui doit être possible.
Trois mots sur la question de la participation. En élargissant au-delà de la question des espaces publics sur la question du quartier plus largement, les motifs ou les motivations de participer, elles sont de trois niveaux, hein, à peu près. C'est soit effectivement quand il y a danger immédiat, et donc là il y a implication forte des habitants. Ça peut être la participation à des associations, un contexte de relations sociales pour un certain nombre d'individus qui n'ont pas d'autres lieux de relations sociales. Et puis il ne faut pas s'en cacher, c'est aussi, tout un ensemble de travaux sociologiques l'ont montré, une voie possible de promotion sociale, qu'elle soit professionnelle ou politique. Il faudrait regarder le profil de ceux qui justement sont ceux qui participent, mais sont souvent effectivement architectes ou urbanistes ou autre chose. Alors la non participation maintenant des habitants, elle est liée à plusieurs choses. La première qui a à voir, à mon avis, très directement, j'ai l'impression qu'on en a peu parlé ici par rapport à la question de la durabilité ou du quartier durable, c'est que d'un point de vue résidentiel, les gens sont beaucoup plus mobiles qu'avant. C'est-à-dire que leur présence dans un lieu hein, et ce qui se joue dans ce lieu a évidemment une incidence tout à fait différente selon qu'ils sont là pour une durée très longue ou qu'ils sont provisoirement là, hein, et pour reprendre des chiffres en quelque sorte liés à l'étude que je présentais tout à l'heure, je vous ai dit qu'on avait fait une enquête en 97, on a fait ensuite une enquête en 2002. En 2002, il y avait à peine 50% des gens qu'on avait interrogés en 97 qui habitaient encore les différents quartiers qu'on a enquêtés, moins de 50%. Hein. Bon, évidemment, la question de la mobilité, elle se pose, hein, elle pose du coup la question de la participation dans des choses qui engageraient de façon plus durable les transformations d'un quartier. L'autre élément de la mobilité résidentielle, je l'ai évoqué dans mon exposé, c'est la mobilité hein, quotidienne qui fait que le quartier n'est qu'un espace parmi d'autres de leur vie urbaine et de leur vie tout court. Hein. Les gens, ils habitent un quartier, mais ils vont et ils fréquentent aussi d'autres espaces de la ville, ils partent le week-end, ils investissent d'autres lieux, etc. etc. Et tout ça joue un peu hein, à l'encontre, en quelque sorte, d'une participation. Et, dernière chose, pour un certain nombre d'habitants des quartiers, en tout cas de ceux qu'on a étudiés, le quartier apparaît finalement assez rarement comme un bien collectif. Je l'ai dit, on a un rapport individuel au quartier. On peut avoir des formes collectives dans le quartier, mais le quartier n'est pas un enjeu. Hein, pour prendre qu'un exemple, il se développe beaucoup dans les quartiers anciens de centre-ville en France, des associations de type AMAP, hein, qui sont des associations qui vont regrouper des gens autour de l'achat hein, et de la consommation de produits biologiques avec accès direct à des producteurs. Voilà bien une dimension collective qui a comme cadre, en quelque sorte, le quartier, mais dans lequel le quartier n'est absolument pas un enjeu. Voilà.
Très bien. Je crois que sur ces paroles, je crois qu'avant qu'il y ait une intervention d'un autre membre de temps, on va se déplacer, prendre le repas à nouveau du côté de la banane. Je pense qu'on peut conclure que, de toutes les exposés que le quartier est bien vivant, une entité vivante, et que ça nous réserve encore beaucoup d'expérience dans le domaine de l'urbanisme de proximité. Donc on va poursuivre cette réflexion cet après-midi. Ah non.